Chapitre 6. Un jeudi, peut-être était-ce le suivant, peut-être cela se passa-t-il 3 semaines ou 1 mois plus tard, maman, avant d'entrer dans sa chambre, me dit « Veux-tu sortir avec moi, Léon ? Va t'habiller, nous irons nous promener au parc, mets ton costume neuf. » J'allais me vêtir avec joie, je pris ma canne à sabots de cheval, mes gants, et je me rendis dans la salle à manger. Maman ne fut prête qu'au bout d'une demi-heure. Puis après ce beau retard, elle se montra très impatiente et très désireuse d'arriver le plus vite possible. Elle avait sa robe bleue, la terrible robe des discussions et des querelles, celle que ne connaissait pas encore tant Irma et dont elle ferait des gorges chaudes. Elle avait un entrain extraordinaire ce jour-là. Elle me parlait alors comme à un camarade de son âge, me demandait conseil à tout moment, et je ne comprenais pas bien tout ce qu'elle me disait, mais ce dont je me rendais compte très nettement, c'est qu'elle était à peine un peu moins jeune que moi, que c'était une grande sœur que j'avais là, une grande sœur élégante et qui sentait bon, toute prête à partager mes caprices, comme je l'étais, sans le savoir, à l'aider dans ses fantaisies. Car j'appartenais, moi aussi, à la race folâtre, insouciante et légère, qui va dans la vie sur des ailes de pastel et se pose partout où quelque chose l'attire et la séduit, sans trop se souvenir que le monde est plein de dangers. Et au fond, rien ne nous plaisait davantage que d'être ensemble quand mon père ne nous tenait pas compagnie. Nous nous moquions de tante Irma et de mon oncle Tremla, et de son air de vieux babouin paperassier, gardé dans une étude de notaire, afin de singer son patron et d'amuser les clients, et de mes abominables cousins, lourdeaux, pleins de grossièreté et de malice. Et nous nous amusions aussi du terrible monsieur Godfernot, et des employés de bureau, et de ce bureau lui-même, dont mon père ne parlait qu'avec un respect sacré et une réserve mystérieuse, comme si l'univers entier fût aux aguets pour surveiller les affaires qui se combinaient là, sous les abat-jours verts des lampes. Le printemps, doux comme le lait, emplissait l'atmosphère. Il coulait avec les fleurs et les senteurs des feuilles fraîches, avec la tiédeur des brises et les caresses attardées et glissantes du vent. On l'aspirait dans tous ses pores comme un vin léger et qui grise à la longue. Le ciel avait la même couleur que la robe de maman, le même bleu fondant et pâle, et au milieu passaient en grand apparat des falbalas de nuages en dentelle, mousseux, transparents, dont on croyait entendre frémir par les courants de l'air le céleste froufrou. Nous grimpâmes dans un tramway. Les deux chevaux qui le traînaient trottinaient gaiement, comme s'ils fussent fiers, eux aussi, de transporter une promeneuse aussi élégante et aussi jolie, et comme s'ils avaient envie, ainsi que papa, de la montrer avec orgueil partout où elle passait. Les platanes étaient clairs sous leur écorce qui s'en allait en haillons. Ils avaient l'air de se dire les uns aux autres « Ouf ! Ce n'est pas malheureux de quitter enfin cette carapace et de sortir en tenue de printemps. » Il y avait, sous leur ombre, encore très clairsemée, des nourrices aux larges rubans de couleur criarde qui charriaient des enfants, d'élégantes petites filles guindées, aux longs cheveux, des garçons turbulents, bruyants et batailleurs qui me rappelaient fâcheusement mes cousins. On entendait les sonnettes aigres des cerceaux, les trompes rauques des bicyclettes, le claquement léger des fouets d'enfants, des roulements de voitures, des cris joyeux qui montaient des jardins, des villas aux murs couverts de lierre poussiéreux et rapace. Nous descendîmes au seuil d'une grande allée, au bout de laquelle s'ouvrait le parc. Un petit château de couleur jaunâtre semblait s'adosser aux collines, et de sa terrasse à la grille d'entrée, des bassins se suivaient, jetés dans le gazon comme des pièces d'argent. Les ombrages un peu courts des arbres laissaient passer le soleil, comme un filet aux mailles trop larges laisse glisser des poissons. Quelques rares voitures roulaient doucement sur le sable fin. Il y avait à gauche un étang où de lents cygnes nageaient avec une hauteur ennuyée. Des massifs d'arbres, dont les verts se nuançaient selon leur âge, formaient autour un opulent bracelet de végétation. Des ponts de bois enjambaient élégamment des canaux ridés par la brise, comme de plis à peine creusés d'éventail. Une femme, derrière un kiosque, vendait du pain et des gâteaux que des enfants achetaient. Beaucoup partageaient leur goûter avec les cygnes qui venaient vers la berge sans effort, et comme si le vent les poussait, l'air vaniteux, soupçonneux et méchant. Maman se taisait et marchait plus vite. Nous contournâmes une allée. Des fleurs sans nombre, à demi plongées dans les prairies immenses, haussaient vers le ciel leurs coupes multicolores. Au long du canal, se clairsemait un petit bois de bouleaux, roulés comme des momies dans leurs bandelettes d'argent. Brusquement, près d'un banc, ma mère s'arrêta. Un jeune homme, assis sur un des bancs, venait de se lever et s'inclinait, le chapeau à la main. « Vous ici, cher monsieur, quel heureux hasard! Comment allez-vous depuis si longtemps que je ne vous ai vu ?» C'était une voix nouvelle qu'avait maman, une voix en même temps plus souple et plus forte, comme si elle exagérait tout ce qu'elle disait, afin d'en persuader mieux ceux qui l'écoutaient. Le monsieur s'inclina de nouveau. Il devait être très jeune, mais comme j'étais un enfant, il me parut d'âge mûr. Il était vêtu avec élégance, portait un pardessus court, très clair, et d'une main gantée, tenait une canne dont le bec d'aigle m'impressionna. Il avait un lorgnon, une petite moustache noire, courte et rude, l'air désagréable et préoccupé. « C'est votre gosse, » fit-il en me désignant. « Oui, c'est mon fils, n'est-ce pas qu'il me ressemble ?» Le monsieur fixa sur moi un regard dur, aigu, pénétrant, sans indulgence et sans sympathie, et sans doute le considérais-je, moi, avec une expression interrogatrice et curieuse, stupéfaite et naïve. Ma grâce de bambin gâté, mes grands yeux bleus dans ma figure brune, mon air câlin, mes beaux cheveux noirs, m'attiraient d'ordinaire mille compliments. À mon apparition, tous les visages se faisaient épanouis et bienveillants. J'étais habituée à cette bonhomie générale à laquelle je croyais avoir droit. Mais cette figure-ci demeura sombre et maussade, comme si ma vue lui fût pénible. J'en fus extrêmement offusquée, ayant l'impression d'un manquement aux usages qui blessait de façon pénible mon chatouilleux amour-propre. Cependant, le monsieur parlait. « Oui, il a vos yeux ambigus et dangereux. » Il baissa brusquement de ton et je perdis la fin de la phrase, bien que j'écoutasse de toutes mes forces concentrées. D'un geste négligent, du bout de sa canne à tête d'aigle, il traçait dans le sable de l'allée des signes sans doute cabalistiques dont le sens m'échappait. Car je ne doutais point que ce monsieur d'allure mystérieuse ne s'exprimât aussi par ces hiéroglyphes dont je suivais les contours imprévus. Il dit encore « Ne vous asseyez-vous pas un moment avec moi ?» Je trouvais la proposition insolente et inopportune. « Maman, point. » Je m'attendais à une protestation de sa part. Nullement. Elle s'installa à côté de lui, sur le banc. Mais le plus ahurissant encore, ce fut d'entendre ma mère me dire, d'un ton tout à fait sec et détaché, en me tendant une pièce de cuivre. « Tiens, voilà 2 sous. Achète du pain et va le donner au cygne, ça t'amusera. » Je pris maladroitement la pièce et n'en demeurai pas moins immobile. Eh bien, qu'est-ce que tu attends là? Dit ma mère, déjà impatientée. Tu ne remues pas plus qu'un terme. Va vite. Avant de m'éloigner, j'entendis maman qui disait: Vous voyez bien que j'ai tenu ma promesse malgré tout. Quelle promesse! Je m'en allais, stupéfait. On m'envoyait seul au bord d'un étang, moi qu'on ne pouvait voir auprès d'un puits sans crier que j'allais me noyer. On m'invitait à acheter du pain, tout seul, en sachant que jamais je n'avais tenté une démarche aussi hasardeuse et que j'étais la timidité même. Que se passait-il donc? Je marchais machinalement dans l'allée par laquelle nous étions venus, si triste et le cœur si gros que j'avais envie de pleurer. Une fois de plus, j'étais envahie d'une de ces mélancolies d'enfant qui obéissent à des lois mystérieuses. De quoi étais-je attristée? De la voix sèche de maman, du dur regard de l'inconnu ou de l'ensemble de tout cela? Il me semblait brusquement être abandonné de tous dans un vaste monde dangereux, hostile, effrayant. Je m'avançais à petits pas, n'osant me retourner, tenant mes 10 centimes bien serrés dans ma main fiévreuse. J'arrivai enfin devant le kiosque à biscuits. Une grosse femme se tenait derrière son éventaire, affable et abondamment barbue. Des tables de jardin et des chaises de fer, rangées en rond, invitaient par leur raideur et leur solitude à des réflexions moroses. Une miss anglaise, anguleuse et couperosée, achetait des brioches à 2 marmots minuscules et tout fière d'être déguisée en homme. J'attendais qu'elle eût fini. J'étais rouge de honte et mon cœur battait. Cela me semblait une chose énorme que d'aborder cette redoutable matrone et de lui adresser la parole. À me voir ainsi, tout seul, ne supposerait-elle point que j'avais volé cette pièce? Ne me poserait-elle pas à son sujet 1000 questions gênantes? Ainsi, mon imagination affolée me représentait avec angoisse tous les dangers que comportait cette expédition hasardeuse, où me conduisait l'étourderie de ma mère et l'étrange tour qu'avaient pris les événements. La miss s'en était allée avec ses 2 singes, et je restais toujours là, à la même place, n'osant rien demander. La marchande m'aperçut, vit mon trouble et m'adressa son plus gracieux sourire, en même temps qu'elle penchait son large visage barbu. Qu'y a-t-il pour votre service, mon petit monsieur? Je devins rouge et balbutiai. Je veux 2 sous de pain. La marchande ne me demanda pas si j'étais un voleur et si j'avais acquis par effraction cette somme considérable. Sans doute même, pensa-t-elle qu'un petit monsieur de mon espèce n'était pas gaillard à se nourrir exclusivement de pain sec, car elle ajouta aussitôt après: Et avec cela, mon ami, vous prendrez bien du chocolat. Nous avons justement des bâtons à la crème qui sont succulents. Je ne pouvais décemment avouer que toute ma fortune se montait à 10 centimes, et je déclarai avec candeur: Oh, ce n'est pas la peine, c'est pour les signes. On me tendit un énorme morceau de pain. Jamais mes mains n'en avaient tenu de pareil. Je me rendis tristement au bord de l'eau, qui était d'une couleur verte, trouble, et comme épaisse. Des canards jouaient à sa surface. Ils plongeaient tout à coup et ressortaient plus loin en s'ébrouant. Parfois, ils se renversaient la queue en l'air et on les voyait gigoter drôlement, remuant leur derrière et tricotant des pattes. Les cygnes, méprisants, s'approchaient et allongeaient leur cou en forme de serpent. Puis d'un brusque mouvement de bec, oup, ils pêchaient une croûte en train de nager. Ils firent grand cas des morceaux que je leur jetais, bien que, pour me débarrasser plus vite de ma mission, je leur en offrisse qu'ils durent avoir grand-peine à s'assimiler. J'eus quelques remords les jours suivants, à penser que les cygnes de l'étang après ma visite, étaient peut-être tous morts d'indigestion. J'avais grand hâte d'avoir fini. Il me semblait que tout le monde fixait les yeux sur moi, que l'on me considérait avec stupeur, que chacun se demandait d'où venait ce malheureux enfant abandonné. Les petits garçons se penchaient vers les fillettes pour leur parler à voix basse. Des institutrices riaient, et je ne doutais point que tout ce petit monde ne s'occupât de moi. Et j'étais plus rouge que jamais, et je n'osais pas m'en aller. De temps en temps, je tournais les yeux vers le chemin, mais ma mère ne revenait pas, et il m'était impossible de la voir. Un épais massif d'arbres me séparait d'elle. Et je jetais aux cygnes des bouchées de plus en plus menues, pour retarder le moment où, tout étant fini, je retomberais dans une situation si intimidante que sa perspective seule m'affolait. Tout de même, mon quignon de pain n'était pas perpétuellement renouvelable comme la fortune du juif errant. Il vint un moment où je me trouvais les mains vides. Je restais debout au bord de l'eau, ne sachant à quel saint me vouer. Heureusement que peu après, une importante bande d'enfants quitta le pavillon avec deux des institutrices. Je profitai du brouhaha de ce départ pour m'esquiver à mon tour. Je revins en toute hâte vers le banc. Maman s'y trouvait toujours avec le monsieur, mais il me parut qu'il ne se parlait plus beaucoup. Le jeune homme, ramassé sur lui-même, la tête basse, traçait encore des signes dans le gravier avec sa belle canne à tête d'aigle. Maman était tournée vers lui. J'avais peur qu'elle ne me grondât d'être revenue si vite. Au lieu de cela, son visage s'épanouit à ma vue. « Ah, Léon, te voici. J'allais justement te chercher. Tu ne t'es pas trop ennuyé là-bas ?» Elle me prit par la taille et me serra contre elle d'un geste doux. « Dis, tu m'aimes bien, toi ?» Mais je lui en voulais maintenant de s'être débarrassé de moi. Je lui gardais rancune des mauvais instants que la solitude et ma timidité m'avaient coûtés. Et aussi, de je ne sais quelle souffrance mystérieuse, tenace, dont je la rendais obscurément responsable et qui me fermait le cœur. Maman insista. « Dis, qui aimes-tu mieux, papa ou moi ?» Elle se croyait bien sûre de la réponse pour tenter une telle expérience publique. Mais on ne pose pas une question pareille à un garçon de mon âge et de mon importance. Où maman avait-elle la tête ? Il me vint un désir méchant de prendre aussitôt ma revanche, et je dis nettement « Papa, bien sûr ». Ma mère me repoussa d'un geste brusque, et je crus voir, non, je vis, ses paupières battre et ses yeux devenir humides, comme si des larmes sourdaient de partout à la fois au fond de ses prunelles claires. « Oh, le méchant, il va me faire pleurer !» Elle dit cela d'une voix si navrée, si vraiment désolée, sur un ton si humble, que j'eus tout de suite un grand remords de ma conduite, et j'allais lui demander pardon et lui sauter au cou, quand je m'aperçus qu'en parlant ainsi, elle ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle regardait fixement ce personnage désagréable, maussade, qui ne parlait pas et continuait son ingrate besogne de dessinateur sur sable. Alors je m'éloignai pour cueillir dans la belle prairie ondoyante des fleurs qui avaient une couronne d'or, comme le roi des gnomes que j'avais vu sur un livre illustré que l'on m'avait offert pour le jour de l'an, et d'autres qui portaient gaiement une ombrelle blanche que parcouraient des bestioles menues. Je ne revins que lorsque ma mère me rappela. Elle était debout et serrait la main du monsieur en lui parlant à voix basse. Il gardait cette main dans la sienne avec autant de soin que si c'eût été un éventail ou un médaillon qu'il eût craint de laisser tomber. « Allons, au revoir !» lui dit-elle. Il eut un demi-sourire navré et il s'en alla. Il ne jeta pas les yeux sur moi, ne me dit rien, et s'assit sur un autre banc où il reprit sa monotone occupation, pour laquelle je supposais que l'administration des jardins devait lui offrir de jolis appointements. Dès que nous fûmes un peu loin, je demandai « Qu'est-ce que c'est que ce monsieur ?»« Oh, un ami de Madame de Tulle, que j'ai rencontré quelquefois chez elle. Il est très gentil. » Il hésita un moment, puis ajouta « Écoute, si papa nous demande ce que nous avons fait, ne lui dis pas que nous avons rencontré quelqu'un. »« Ah, pourquoi ?»« Mais tu sais combien il a le caractère inquiet, ton père. La moindre chose le choque, l'irrite. »« Qu'est-ce que cela peut lui faire ?»« Oh, rien, mais cela l'ennuie, tu comprends ?» Je ne comprenais pas, et je me demandais pourquoi papa m'avait déjà demandé si nous ne rencontrions jamais d'hommes, maman et moi. Oui, nous en rencontrions, il paraît, mais quelle importance cela pouvait-il avoir? Et il me parut que les grandes personnes se créaient des soucis bien ridicules, et que si les enfants avaient la même liberté qu'elles, ils sauraient en profiter davantage. Mais mon père, le soir, ne nous questionna pas. Il était plus morose que d'habitude, et ma mère se montra, au contraire, aussi affable et enjouée que possible. Elle ne se révélait ainsi que très rarement, et j'eus un rapide soupçon qu'elle ne l'était que lorsqu'elle avait rencontré, l'après-midi, dans un beau jardin, quelque amie de Madame de Tulle.